Ainsi que je l'avais annoncé dimanche dernier, ces quatre dimanches de juillet vont être pour nous l'occasion d'un parcours à travers plusieurs textes bibliques. Des textes qui témoignent que la vie et comment la vie passe même à travers la mort. Et pour aujourd'hui, c'est donc dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, que nous lisons ce petit passage de l'histoire du roi Salomon. Alors deux prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon seigneur, moi et cette femme, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Le troisième jour après mon accouchement, cette femme aussi a accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée en pleine nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché sur son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a couché sur mon sein. Au matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, mais il était mort. Je l'ai examiné au matin. Ce n'était pas mon fils, celui que j'avais mis au monde. L'autre femme dit, « Pas du tout, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première femme répliqua, « Pas du tout, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, pas du tout, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi dit alors, allez me chercher une épée. On apporta l'épée au roi. Le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant, donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant s'émut pour son fils et dit au roi, « Pardon, mon seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le mettez pas à mort. » Tandis que l'autre disait, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Alors le roi dit, « Donnez-lui l'enfant vivant, ne le mettez pas à mort, car c'est elle qui est la mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. On craignit le roi, car on avait vu que la sagesse de Dieu était en lui pour agir selon l'équité. Un jugement de Salomon. Voici une des nombreuses expressions venues des textes bibliques et passées dans le langage courant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux significations à cette expression devenue commune et populaire. La première signification, c'est celle d'un jugement équitable. La sagesse de Salomon est mise à l'honneur alors par l'usage de cette expression, d'une autre manière qu'elle est mise à l'honneur par exemple dans le célèbre tableau de Nicolas Poussin représentant cette scène du jugement de Salomon. Mais l'autre signification est assez contradictoire. Un jugement de Salomon, c'est aussi un jugement qui renvoie les deux parties dos à dos, ne satisfaisant finalement qu'une ou aucune d'entre elles. Et là, on se demande un peu comment le sens de l'expression a ainsi pu glisser de l'équité à la poire, celle qu'on coupe en deux, dans l'intention de ne pas faire de jaloux et de ne fâcher personne, une intention rarement couronnée de succès. Sauf que, comme le disait une participante de la pause spirituelle il y a une dizaine de jours, l'enfant n'est pas une poire. Et il faut quand même lire le récit jusqu'au bout. L'enfant est rendu vivant à sa mère, à la femme qui est sa mère. Ce jugement constitue dans le livre des Rois une des premières manifestations du gouvernement de Salomon. Le roi a d'abord affermi son trône en faisant mettre à mort ses opposants. Puis il a épousé la fille de Pharaon. Le début du chapitre 3 relate un rêve de Salomon à qui Yahvé, son Dieu, lui dit qu'il lui accordera ce que le roi demandera. Et Salomon demande un cœur attentif pour gouverner le peuple, pour discerner le bon du mauvais. Alors Dieu lui répond qu'en plus de l'intelligence et de la sagesse, il lui accordera également richesse et gloire. Et le récit que nous avons lu vient mettre en scène la sagesse de Salomon. Deux femmes viennent demander un jugement. Elles vivent seules dans la même maison. Elles ont accouché l'une et l'autre à 3 jours d'intervalle. Au matin, l'une a trouvé auprès d'elle un enfant mort et elle affirme que ce n'est pas le sien. Comment savoir laquelle dit vrai ? Et le récit est si subtilement construit qu'à aucun moment il ne permet de comprendre laquelle est la mère de l'enfant vivant. Est-ce celle qui parle la première, exposant longuement avec force détail sa version du drame dans un plaidoyer visant à démontrer que l'enfant vivant est bien le sien ? Ou est-ce celle qui parle en second, avec si peu de mots, juste en contestant la version de la première ? Ni l'une ni l'autre ne peuvent apporter aucune preuve, il n'y avait personne d'autre qu'elle dans la maison. Et Salomon assiste, sans aucun apport d'éléments déterminants, comme nous lecteurs assistons sans pouvoir discerner la vérité, à un affrontement parole contre parole. Alors la femme qui parle la première en raconte un peu trop, parce qu'elle imagine ce qui s'est passé et qu'elle n'a pas vu puisqu'elle dormait, c'est elle qui le dit. Et la femme qui parle en second dit peut-être trop peu en se contentant de renverser l'attribution de l'enfant. Laquelle dit la vérité ? Laquelle ment ? D'autant que pour ajouter à la complexité de la situation, il faut aussi envisager l'hypothèse que celle qui ne dit pas la vérité ne ment pas de manière délibérée. Peut-être est-elle simplement dans le déni complet de la mort de son enfant, incapable d'y faire face et se protégeant ainsi de la culpabilité générée par la mort du petit. Même si l'une parle plus que l'autre, l'une et l'autre sont fidèlement en miroir, réclamant la même chose et l'exprimant, finissant par l'exprimer par les mêmes mots. C'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Non, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et Salomon, à son tour, répète, l'une dit « c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort », l'autre dit « pas du tout, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant ». Elles disent la même chose, mais l'une dit vrai et l'autre pas. Comment les distinguer ? Comment les distinguer sans prendre parti a priori, sans préjuger ? Car c'est pourtant ce qui guette chacun, non seulement Salomon, mais chacun de nous, dans une telle situation, parole contre parole, une opposition dans laquelle on se trouve coincé. Et on peut se trouver plus touché par l'une ou l'autre partie, selon des critères qui ne doivent rien à un réel processus de discernement, mais qui tiennent plutôt à des affects. Prendre parti pour celle ou celui qui parle le mieux, qui est le plus éloquent, ou pour celui ou celle qui pleure, pour celui ou celle qui a la meilleure mine, ou qui a la moins bonne mine, pour celui ou celle dont on se sent le plus proche, qui nous ressemble le plus. Et bien sûr, il y a aussi des situations dans lesquelles jouent des intérêts particuliers qui poussent à prendre parti pour l'une ou l'autre des parties en conflit. Salomon, lui, n'a aucun intérêt pour l'une ou l'autre femme, mais il est roi et il doit juger. Couper l'enfant en deux, donner la moitié à l'une et la moitié à l'autre. C'est complètement atroce comme jugement. Renvoyer les femmes en tuant l'enfant vivant, l'enfant qui n'y est absolument pour rien. Supprimer le problème. Éliminer la cause du conflit. C'est radical. C'est définitif. trancher en tranchant l'enfant. Alors bien sûr, ce jugement qui tranche fait réagir la femme dont l'enfant est vivant. Et cette réaction, c'est d'abord celle de son corps. La traduction dit « elle s'émue », littéralement « sa matrice brûle ». Car le jugement qui tranche remet brutalement en lumière l'enjeu réel du conflit entre les deux femmes et qui est l'enfant vivant et qui est soudain menacé de mort. Alors tout d'un coup, ce qui importe, ce n'est pas leur affirmation respective. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir laquelle dit la vérité et laquelle ment, ou s'aveugle elle-même. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir qui aura l'enfant. Ce qui importe, c'est ce qui est dissimulé par la revendication de la possession de l'enfant. Revendication qui n'est qu'une impasse, une impasse mortelle. Et ce qui importe à la femme dont l'enfant est vivant, et que son enfant continue à être vivant. Celle qui a donné la vie la donne à nouveau, quitte à ne plus avoir l'enfant. Celle qui est la mère préfère ne plus l'être afin que son enfant vive. Elle lâche prise sur la possession de l'enfant pour qu'il reste vivant, même avec une autre femme qui n'est pas sa mère. La matrice brûlante qui a donné la vie, tient à nouveau cette fonction et la parole de la femme qui veut avoir son enfant devient la parole d'une mère qui donne son enfant afin qu'il vive. Et d'ailleurs, dans son cri, l'enfant n'est plus son fils, mais l'enfanté, c'est-à-dire l'enfant mis au monde pour qu'il vive, même sans elle. Et rien, alors qu'elle dit, qu'elle exprime, qu'elle crie cela, rien ne peut l'assurer que le roi l'écoutera. Mais elle fait tout ce qu'elle peut. Donner son enfant. Il est des mères qui se séparent de leur enfant pour qu'ils vivent, parce que la mort menace, parce qu'il n'y a pas d'espoir dans leur situation, parce que c'est la guerre, parce que c'est la famine. Au catéchisme, cette année, les jeunes ont regardé ce magnifique film « Va, vis et deviens », dans lequel une mère éthiopienne oblige son jeune fils à la quitter, à s'en aller loin du camp de réfugiés où les morts s'accumulent, à se faufiler dans un groupe de falachas en partance pour Israël. Des mères, des pères aussi, des parents qui par-dessus tout veulent que leur enfant vive. Et vouloir que l'autre vive, cela se dit en un seul mot. Cela se dit aimer. Ces parents ne se sacrifient pas, parce que ce qui importe avant tout pour eux, c'est la vie de leur enfant. Et René Girard, dans son ouvrage « Des choses cachées depuis la fondation du monde », fait une lecture de ce récit du jugement de Salomon en insistant sur ce point. Ce n'est pas un sacrifice. Ce qui se fait par amour, même donner son enfant à une autre, n'est pas un sacrifice. Car le sacrifice, avec sa charge de souffrance et de mort pour un retour attendu, occupe toujours le premier plan. Alors que dans ce récit, le premier plan de la mère de l'enfant, c'est la volonté que l'autre vive. C'est le souci de l'autre, c'est l'amour. Et par amour, on ne se sacrifie pas, on donne pour que l'aimé vive sa vie. Et c'est sur cette parole de don de vie que Salomon reconnaît la mère de l'enfant et qu'il prononce le jugement final, le jugement du don, que l'enfant soit donné à celle qui est sa mère, incontestablement. Parce que l'autre femme, qui n'est pas la mère, elle est restée, elle, dans la logique de convoitise, la logique de possession et de l'avoir, avoir l'enfant. Et si elle ne l'a pas, eh bien, elle ne veut pas que l'autre l'ait non plus. Elle préfère qu'il meure et qu'il ne soit à personne, qu'il ne soit plus. La parole du don, née de la matrice brûlante de la femme, parole qui sauve la vie de l'enfant, parole qui, pour Salomon, relie l'enfant à sa mère. Alors, le jugement qui tranche, le premier, était-ce une ruse, une astuce pour que soit révélée l'identité de la mère? Était-ce un stratagème pour trancher, non l'enfant, mais entre les deux femmes? Le jugement qui tranche était-il déjà un effet de la sagesse que Dieu avait promise à Salomon quelques lignes plus haut? Était-il ce jugement une de ces paroles humaines dans lesquelles résonne l'écho de la parole de Dieu, celle qui, selon l'Épître aux Hébreux, tranche comme une épée jusqu'à la moelle, jusqu'au plus profond de l'être, pour faire apparaître la vérité, pour que la lumière se lève à travers les ténèbres intérieures? Oh, le narrateur du Livre des Rois explique bien que tout Israël craint le roi, car on avait vu que la sagesse de Dieu était bien en lui pour agir selon l'équité. Et ce qui est curieux tout de même, c'est que quelques pages plus loin, 6 chapitres, malgré la construction du temple, malgré la visite de la reine de Saba, la sagesse de Dieu semble avoir quitté Salomon, qui devient infidèle à Yahvé en s'attachant au dieu de ses 700 femmes et 300 concubines. La sagesse donnée par Dieu n'est pas un acquis qu'on possède, et elle n'est pas automatique. Et peut-être bien que Salomon, qui n'est pas un tendre, il est roi, coincé lui-même entre les affirmations en miroir des deux femmes, « mon fils, ton fils, vivant, mort », peut-être bien qu'il n'avait pas vu d'autre solution que de couper l'enfant en deux et de renvoyer les deux prostituées dos à dos. Peut-être bien qu'il a fallu le cri de la femme et sa parole de don pour que s'éclaircisse enfin pour le roi l'identité de la mère de l'enfant. Et alors, c'est la femme, la prostituée, la mère en détresse qui a donné au roi la possibilité d'être sage en cette circonstance, la possibilité de mettre en œuvre la sagesse que Dieu lui avait donnée. Alors peut-être qu'il aurait fallu que tout Israël se souvienne d'elle aussi, et pas seulement de la justice du roi. Et faut-il que nous nous souvenions d'elle? Que nous n'évoquions pas la sagesse de Salomon sans son souvenir à elle? De même que l'Évangile n'est pas proclamé sans la mémoire de la femme qui avait versé sur la tête de Jésus un parfum de grand prix avant qu'il soit arrêté, condamné et crucifié. Une autre femme qui a fait ce qu'elle a pu. Et peut-être que la sagesse, c'est de reconnaître par où passe la vie. Et c'est toujours, toujours dans un don, dans le souci de l'autre. Sympathie, empathie, compassion, bouleversement des entrailles, comme Jésus de Nazareth l'a éprouvé dans son amour, un amour jusqu'à l'extrême, pour que nous vivions. Alors c'est vrai que c'est parfois le chaos dans nos paroles et dans nos actes, lorsque la vérité ou l'autre est considérée comme sujet et le mensonge ou l'autre est considéré comme objet s'entrecroisent tous les deux, lorsque la mort et la vie s'en mêlent au fond de nos impasses. Mais nos actes et nos paroles peuvent aussi participer à une œuvre de création. Et nous pouvons répondre à la provocation de la cruauté, de l'injustice, de la mort menaçante, y répondre même face au roi, face à la puissance, au pouvoir, à la loi, et cela sans même la garantie de réussir. Et la sagesse, c'est de reconnaître l'amour, de reconnaître le don pour la vie d'autrui, et de les favoriser, de les soutenir, de les encourager, d'y participer et de transformer un lieu de mort en élan de vie, une circonstance de mort en occasion de vie. Au moins, essayons, faisons ce que nous pouvons. Amen.